Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brand, Aliette Ovine et Alain de Raucourt. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Ludovic Auger.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est l'histoire d'un courant de pensée né dans le sillage de la crise de 1929. Ses défenseurs s'appellent Walter Lippmann, Friedrich Hayek ou encore Walter Eucken. Au cœur des années 30, ils cherchent à refonder le libéralisme économique qui se serait détourné, selon eux, de ses racines progressistes. Leurs idées tomberont dans l'oubli avant d'être reprises 40 ans plus tard par Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Vous l'avez reconnu, c'est le néolibéralisme, doctrine politique et économique, jugée responsable par beaucoup des dérives du système capitaliste. Vous écoutez France Culture et nous partons aujourd'hui à la recherche du néolibéralisme français. La France est-elle un État néolibéral ? C'est la question qui va nous occuper dans l'heure qui vient, en compagnie de Bruno Palier, politiste, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po, en compagnie également de Nader Hakim, avec nous par téléphone, professeur d'histoire du droit à l'Université de Bordeaux. À 14h50, Xavier Martinet nous rejoindra autour de la table avec son journal de l'Écho.
Le 1er juillet 1946, commenceront à fonctionner les nouvelles caisses de sécurité sociale et les nouvelles caisses d'allocation familiale. Aussi, dès le début de 1946, les assurés sociaux verront leur situation considérablement améliorée. Le nouveau régime d'assurance maladie les couvrira à peu près intégralement contre toutes les charges résultant des dépenses médicales et pharmaceutiques.
Le progrès social passe aussi par un élan collectif pour assurer la dignité de chacun. C'était l'intuition fondamentale qui a présidé, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à la création de notre sécurité sociale. 70 ans plus tard, nous pouvons en être fiers, mais nous devons aussi lucidement regarder en face nos échecs, nos insuffisances ou ce qu'il faut améliorer. Nous devons construire l'État-providence du XXIe siècle.
D'Ambroise Croizat, ministre du Travail, créant la Sécurité sociale en 1945, à Emmanuel Macron face au Parlement le 9 juillet 2018. Bonjour Bruno Palier et Nader Hakim.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors la semaine dernière, nous sommes revenus aux origines de la pensée néolibérale avec le philosophe Serge Audier. Et pour lui, si le néolibéralisme désigne plusieurs courants de pensée, on l'associe désormais sur le plan théorique à Hayek et Friedman et sur le plan politique à Thatcher et Reagan. Mais c'est un concept qui demeure flou et particulièrement difficile à définir, Bruno Palier.
Quand on lit à la fois la presse, les magazines, la presse d'opinion, et mais aussi beaucoup de travaux en sciences sociales, c'est devenu un mot attrape-tout qui sert à définir toutes les choses qui ne sont pas souhaitables et qui semblent être une facilité d'explication de beaucoup de choses qui se passent. Et il me semble qu'à force d'avoir été usé et abusé, ça ne veut plus dire grand-chose. Et je crois que vous faites un travail important d'essayer de comprendre par le passé ce que ça peut vouloir dire. Il y a effectivement plusieurs définitions possibles.
Le néolibéralisme, c'est aujourd'hui un terme péjoratif, Nader Hakim, que l'on retrouve plus souvent dans la bouche de ceux qui le dénoncent.
Oui, tout à fait. C'est un terme péjoratif et qui a été longtemps péjoratif, d'ailleurs, précédemment. On trouve chez les auteurs une critique du libéralisme parfois tout à fait farouche dans toutes ses formes.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'avant de parler de néolibéralisme, le libéralisme lui-même a été une sorte de figure repoussoir pour un certain nombre d'auteurs, et notamment pour ceux qui m'intéressent le plus, hein, les juristes, qui ont souvent eu du mal à avouer leurs penchants libéraux, même si ils en avaient.
Alors la question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la France est-elle un État néolibéral ? Et ce qu'on peut commencer par dire, Bruno Palier, c'est que on aurait peut-être plutôt tendance à penser que non, au regard des dépenses publiques particulièrement élevées dans l'Hexagone, la France est et demeure un État-providence.
Oui, si la définition d'un État néolibéral, c'est la définition d'un État qui est réduit à sa portion congrue au niveau des dépenses, qui se concentre, tel que Margaret Thatcher le souhaitait, sur les fonctions de régulation. Un État néolibéral, ça ne veut pas dire un État faible, ça veut dire un État qui se concentre sur sa capacité à réguler et à faire en sorte que le plus possible les mécanismes de marché puissent se déployer. Donc des lois antitrust, donc de la privatisation, donc des choses comme ça. Mais la première caractéristique, c'est que c'est un État qui n'est pas très imposant du point de vue de sa production, de ses dépenses, etc. Il se trouve que statistiquement, d'après l'OCDE, nous avons l'État dans les pays développés le plus imposant, au sens où à la fois ça lève des impôts et des cotisations sociales, et ça dépense beaucoup, la part des dépenses publiques dans le PIB est supérieure à 50-55%, donc difficile de le caractériser comme cela. De même, si on regarde plutôt les questions des politiques sociales, puisque vous avez commencé en Ambroise Croizat, et ce sont les questions qui m'intéressent plus particulièrement, on voit que la socialisation des dépenses sociales, de la protection sociale, c'est-à-dire une prise en charge collective organisée, est poussée très loin. On a un niveau de retraite garantie par des mécanismes collectifs très élevés, une prise en charge de la santé parmi les plus élevées du monde.
On l'a beaucoup entendu ces derniers temps, le fait que les dépenses de retraite représentaient près de 14 points de PIB.
Voilà, et non pas par le marché. Et non pas par des acteurs privés. Donc, si on doit porter un diagnostic sur la nature de l'État français, y compris aujourd'hui, il est difficile de conclure qu'il est un État de nature néolibérale. En revanche, on peut poser la question de savoir si les réformes que l'on cherche à apporter à l'État français depuis les années 80, elles, ces réformes ne sont pas d'inspiration, alors on peut dire néolibérale, moi je préfère en général dire plutôt d'inspiration néoclassique en termes économiques.
Alors on va y venir Bruno Palier, mais procédons pas à pas. Ce que l'on constate, c'est qu'effectivement la France a des dépenses publiques importantes, on dit souvent de la France qu'elle est la championne des dépenses publiques en Europe, et alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la France est encore moins un État néolibéral que d'autres pays européens, à la fois à cause des dépenses sociales, mais à la fois aussi parce que la France soutient beaucoup son économie, par des crédits d'impôt notamment.
Voilà, donc il y a d'une part la prise en charge par le secteur public d'un certain nombre de choses. Prima facie, on a l'impression qu'on dépense beaucoup plus que les autres, mais par exemple, quand on compare avec l'Allemagne, c'est plus dans la question de la façon de calculer les choses. Par exemple, beaucoup du secteur hospitalier, qui est lui aussi socialisé en Allemagne, ne va pas être compté en secteur public alors qu'il est en France. Même chose pour un certain nombre de fonctionnaires dans l'éducation nationale. En revanche, par rapport aux États-Unis, clairement, c'est le public qui fait des choses en France, alors que c'est le privé qui va le faire aux États-Unis. Et là, on est plus important que les autres. Le deuxième point qui est très important, c'est que depuis au moins l'après Seconde Guerre mondiale et la mise en place du plan en France, on a une tradition française d'intervention de l'État dans l'économie. Alors, c'était une intervention sous forme de planification et de financement direct dans les années 50, 60, 70. Depuis les années 90, c'est une intervention indirecte, mais extrêmement élevée aussi, qui consiste à faire des exonérations fiscales, c'est-à-dire garantir des baisses d'impôts aux entreprises si elles font certaines choses, investir dans la recherche par exemple, et beaucoup, beaucoup d'exonérations de cotisations sociales. Et effectivement, quelque part, l'économie est sous perfusion à la demande du patronat. C'est-à-dire que là, je soulevais le paradoxe, le MEDEF va pouvoir dire l'État est beaucoup trop imposant, etc., mais il ne cesse de tendre la CBI pour obtenir des baisses de cotisations sociales et des exemptions fiscales. Et donc, c'est une subvention public de l'économie.
Justement, on a parlé des aides sociales, du soutien à l'économie. Est-ce que ce sont vraiment des dimensions contradictoires avec la conception de l'État chez les néolibéraux, Nader Hakim ?
Alors, tout à fait. Enfin, c'est contradictoire et ça ne l'est pas. Chez Hayek, par exemple, l'État doit intervenir, mais c'est tout un problème, une question de dosage en réalité. Structurellement, l'État français intervient et ça, c'est contradictoire avec le néolibéralisme tel qu'il est formulé, notamment chez Hayek, hein, encore plus avec Friedman d'ailleurs. Mais en réalité, la tradition française d'intervention, elle est directe telle qu'elle a été mentionnée là, avec des aides publiques, des exonérations fiscales par exemple, mais elle était antérieurement également présente par l'intérieur d'un certain nombre de régulations très fortes et de contrôles, notamment le contrôle administratif de commerce par exemple. C'est une autre forme de contrôle et d'interventionnisme en réalité.
On peut remonter effectivement plus loin dans l'histoire et réfléchir au rôle de l'État qui est peut-être celui d'encadrer les libertés depuis le code napoléonien.
Oui, tout à fait, tout à fait. Le code Napoléon, en réalité, n'est pas libéral du tout. Il régule une société où l'État a déjà un rôle très fort. Alors, pas du tout le même si on compare avec aujourd'hui, évidemment, là, on a l'impression d'un État peu interventionniste. En réalité, il régule le commerce, il régule les taux d'intérêt, il régule, par exemple, par des règlements de police, hein, l'activité du commerce de détail, la production, les premières lois relatives à la production industrielle et leurs limitations, notamment sur les effets néfastes et les pollutions, sont très précoces. Donc, en réalité, il y a d'autres formes d'interventionnisme qui existent. Dès le 19e siècle, bien sûr.
Et l'autre spécificité de la France, c'est que l'État est extrêmement centralisé. Et ça, on peut dire que ça va à l'encontre de la conception néolibérale de l'État, Nader Hakim ?
Alors, centralisation, oui et non. Je crois que la question est assez compliquée. C'est-à-dire que l'impulsion politique, elle peut être mise dans un État centralisé. Les États totalitaires, ou du moins autoritaires, ne sont pas incompatibles avec le néolibéralisme, hein, comme on l'a vu dans l'histoire du XXe siècle, la seconde partie surtout du XXe siècle.
Mais, et le Chili de Pinochet, notamment.
Tout à fait. Évidemment, le Chili de Pinochet. Mais il n'empêche que la centralisation du pouvoir peut être aussi un frein. C'est-à-dire la décision, notamment économique, où l'aide publique ou les politiques publiques sont décidées dans un point central, ça peut être effectivement considéré comme un frein à l'expansion et à la liberté du marché.
Mais vous diriez que la structure de l'État et son édifice juridique, à l'heure actuelle, ne sont pas néolibéraux, Nader Hakim ?
Alors, aujourd'hui, c'est difficile de se prononcer. Je dirais oui, tout à fait. Structurellement, l'État français n'est absolument pas néolibéral, mais il y a une mi-tension qui peuvent l'être néolibérales. C'est-à-dire qu'il y a des politiques publiques qui, parfois, ont des tendances à assouplir le trait dominant. Mais que le trait dominant reste bel et bien un État interventionniste, dirigiste, en réalité, qui entend réguler une grande majorité, voire la totalité des activités, y compris économiques.
Alors justement, revenons un petit peu en arrière pour observer ces politiques néolibérales qui ont pu être prises en France à partir des années 80. Et d'abord, en 1986, intervient la première cohabitation de la Ve République. Après la défaite de la gauche aux législatives, Jacques Chirac devient le premier ministre de François Mitterrand. On l'écoute.
Le troisième volet de la loi d'habilitation traitera de la privatisation. La liste des entreprises qui pourront être dénationalisées dans les 5 prochaines années sera clairement indiquée. Elle comportera toutes les entreprises du secteur concurrentiel, quel que soit, cela va de soi, la date de leur nationalisation.
Voilà, Jacques Chirac dans un discours à l'Assemblée nationale le 9 avril 1986. Bruno Palier, dans quel contexte économique et politique ces privatisations interviennent-elles ?
Le contexte économique, c'est les conséquences à moyen terme ou long terme de la crise de 1973 et 1979 qui voit à la fois une montée du chômage et un ralentissement de la croissance économique et une intervention accrue de l'État pour y répondre avec à la fois des allocations chômage, du subventionnement des pré-retraites, du subventionnement de l'économie. Donc plus de dépenses, moins de ressources, vous avez de plus en plus de déficits. Et c'est le contexte général. Le contexte politique est très particulier. C'est Jacques Chirac qui est passé par toutes les couleurs politiques possibles et imaginables, hein, puisqu'en 78-19, il était pour un travaillisme à la française. Là, il revient en force en disant qu'il est néolibéral. Et en fait, c'est la seule période, à ma connaissance, où on a un parti politique qui arrive au pouvoir sur un programme explicitement libéral de privatisation. En France, on l'a tenté que pendant 2 ans, et visiblement mal leur en a pris, puisqu'ils ont perdu les élections de 88, et il y a une sorte de leçon, on ne peut pas dire qu'on est néolibéral en France de façon trop explicite. Je crois que c'est le bilan qu'il a fallu tirer de cet épisode de 2 ans, même si sans doute l'échec à 88 est explicable par bien d'autres choses.
Épisode de 2 ans, mais en 1983 déjà, Jacques Delors, ministre de l'économie de François Mitterrand, avait lancé le tournant de la rigueur. Est-ce que ça, ce n'était pas un premier tournant libéral?
Alors, c'est ce que beaucoup d'analystes, on va dire, de sciences sociales, de sciences économiques, de gauche, disent. C'est que, en fait, la trahison à la fois à la tradition française et à la gauche, elle est à dater de 1982, du tournant de la rigueur.
Vous n'êtes pas d'accord avec cela?
Ce que l'on peut dire, c'est que politiquement, ce n'est pas explicite. Il n'est pas dit, on fait un virage explicite, donc effectivement, effectivement, c'est sans doute un défaut de la période de ne pas avoir assumé un tournant. Ce qui est clair, c'est que c'est un tournant vers une politique d'offre, parce qu'il y a eu un échec de la politique de demande. En tout cas, le gouvernement de 1981 semble avoir vécu comme la fuite des capitaux, l'attaque du franc et les déficits qui se sont creusés très rapidement suite à au plan de relance de l'été 1981, comme on ne peut plus faire du keynésianisme dans un seul pays en Europe aujourd'hui, et donc il faut faire une autre politique.
Donc les nationalisations, c'est fini désormais, la politique de l'offre, c'est une politique de soutien aux entreprises.
Voilà, la politique de l'offre, c'est dire, pour faire repartir l'économie, il ne suffit pas de donner de l'argent aux consommateurs, parce que même si on leur donne de l'argent, ils consomment des biens qui ne sont pas forcément produits en France, et si on veut relancer l'activité en France, il faut attirer les investisseurs et soutenir les entreprises. Donc on se tourne vers l'offre. C'est clair qu'en 82, c'est le tournant qui est fait, mais il n'est pas énoncé explicitement. C'est là une grande différence avec Reagan et Thatcher. Reagan et Thatcher font des cours d'économie à leur électorat. Ils leur expliquent que tous les plans de relance, ça n'a servi à rien. Il faut faire une politique de l'offre qui les assume. Jacques Delors ne l'assume pas, puisqu'il dit que c'est une pause dans les réformes.
Il parle d'efforts ponctuels.
Voilà, des choses comme ça. Et en fait, on peut dire que structurellement, à partir de cette période-là, toutes les réformes qui sont menées se tournent vers l'offre. Alors, de savoir si elles sont néolibérales, néoclassiques, ou en tout cas, elles relèvent du paradigme centré sur l'offre, c'est très clair, sauf en 2009.
Alors, on va y revenir. Nader Hakim, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous diriez que le tournant libéral, il faut le dater à 1983 avec Jacques Delors, ou à 1986 avec Jacques Chirac?
Alors, ça dépend comment vous posez la question, en réalité. Si vous posez une question en termes de politique publique et d'affichage public, je serais assez d'accord. En revanche, d'un point de vue...
D'accord avec Bruno Palier pour dire que c'est plutôt en 86.
Oui, mais d'un point de vue structurel, je dirais que le tournant s'opère au XVIe siècle.
Ah.
Donc, vous voyez, là, je botte en touche, mais la question est très différente. C'est de savoir si l'autonomie des individus de contracter, de s'enrichir, est la question fondamentale que l'on pose, et non pas la question de la politique publique, alors en fait, les racines sont bien antérieures.
Mais alors, ce que vous dites là, Nader Hakim, c'est que finalement, le néolibéralisme, c'est l'essence même du capitalisme, en fait.
Alors, d'une certaine forme de capitalisme. Le problème est selon moi tout à fait lié à comment on considère le capitalisme. Est-ce un capitalisme ouvert? Est-ce un capitalisme lié à l'efficience du marché ou non? Et en réalité, pour nous qui travaillons sur le droit et la pensée juridique, on voit que les racines premières de cette faculté de librement contracter et donc de s'enrichir, d'accumuler les capitaux, et de considérer cela comme une valeur en soi, remonte à la scolastique, à la seconde scolastique, et donc au XVIe siècle, en réalité. Donc c'est très intéressant de voir comment les problèmes sont liés, en réalité, à des choses qui peuvent passer inaperçues quand on envisage les politiques publiques, mais qui en réalité deviennent fondamentales pour permettre ces politiques publiques d'éclore et même d'exister.
Alors encore, faut-il faire émerger le capitalisme au XVIe siècle? Il y a évidemment beaucoup de débats autour de ça, mais Bruno Palier, qu'est-ce que vous pensez de cette vision selon laquelle plusieurs formes de capitalisme ont coexisté, notamment le néolibéralisme, depuis le XVIe siècle?
Oui, mais je pense qu'on ne peut pas dire le capitalisme, c'est le néolibéralisme, et réciproquement. Si le capitalisme, c'est donner la capacité aux individus d'accumuler, d'investir et de bénéficier en propre des fruits de leur investissement et de leur accumulation, ça prend différentes formes. Je crois que ça engage toujours des inégalités et une forme d'exploitation. Marx l'a assez bien montré. En revanche, il y a différentes phases, parce que sur quel type d'activité on fait du profit? Bah, si c'est le commerce, 16e, 17e, 18e siècle, l'industrie, minière, puis manufacturière, l'automobile, Ford, la finance, les années 80-90, et aujourd'hui le digital. Voilà, déjà, ce qui porte le profit, c'est pas la même chose. Et la deuxième source de différenciation, c'est que le capitalisme, contrairement à la pensée néoclassique, ne se construit pas libre de toute institution. Au contraire, il y a tout un appareillage institutionnel qui garantit à la base la sécurité du contrat, le fait que chacune des parties est tenue, mais d'une façon plus générale, pour produire dans l'industrie manufacturière, vous avez besoin de formation, vous avez besoin d'infrastructures, d'accès aux fonciers. Pour produire du profit à partir des données, il y a besoin d'autres institutions. Et là, l'État joue un rôle fondamental. Et ce que beaucoup de travaux ont montré, c'est que l'État va organiser les activités capitalistes de façon différente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de négociations, de coordination autour du capitalisme allemand automobile. Et il y a beaucoup de mécanismes de marché, la bourse, etc., autour du capitalisme financier ou de données aux États-Unis. Donc il y a plein de formes de capitalisme différents et ils ne sont pas toutes néolibérales.
Nader Hakim.
Oui, tout à fait d'accord. C'est pas du tout, je me suis sans doute mal exprimé. Ce que je voulais pas dire, c'est que c'était du néolibéralisme au sens où on l'entend aujourd'hui. Il s'agit simplement de voir d'où viennent les racines de ce libéralisme-là. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant de voir des gens comme Schumpeter avoir d'abord travaillé sur la seconde scolastique espagnole pour pouvoir élaborer des théories économiques, alors qu'ils sont pas néolibérales, on est bien d'accord, mais qui sont de voir les liens intimes qu'il y a entre les deux. Donc, pas du tout de confusion entre néolibéralisme et capitalisme. Et puis, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a différentes formes de capitalisme. Mais la question initiale que l'on peut poser, eh bien, celle d'où vient cette capacité, cette possibilité même de considérer le marché comme une valeur en soi et de croire en son efficience. Et donc là, on se tourne vers ce qu'on appelait les lois naturelles précédemment, qu'aujourd'hui on ne pose même plus, mais c'est croire en la loi naturelle du marché et l'aspect fondamental qui permet en réalité l'éclosion de sa politique. C'est ce que je voulais dire.
Effectivement, il y a la capacité du marché à s'auto-réguler et un certain nombre de critères qui peuvent définir ainsi le néolibéralisme. Mais si on regarde du côté de ces mesures, de ces politiques néolibérales qui ont été prises en France, les privatisations peuvent peut-être constituer un bon exemple. Et ce qu'on constate, Bruno Palier, c'est que depuis les privatisations des années 80, l'État n'a pas cessé de se retirer des grandes entreprises publiques. Il y a eu plusieurs vagues de privatisation.
Oui, il y a eu plusieurs vagues de privatisation. Et je dirais qu'elles se sont faites parfois un peu à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à différencier les domaines dans lesquels on était sur des biens, je dirais, normaux et qui, effectivement, peuvent être produits dans des conditions de marché tout à fait performantes, à la fois en termes de prix, d'efficacité, d'accessibilité. Et puis d'autres biens qui sont un peu moins basiques, normaux, qui incluent du bien commun, du service public, des choses comme ça. Et peut-être est-on allé, pas peut-être, moi je le pense, on est allé beaucoup trop loin dans la pensée qu'on serait tout aussi efficace s'il y avait de la concurrence dans des biens collectifs comme le transport, l'eau, l'électricité, etc.
Donc par exemple, privatiser les banques, c'était une bonne chose. En revanche, privatiser la Compagnie Générale d'Électricité, ça n'en était pas une bonne.
Même pour les banques, on peut poser la question. Si l'État français assume d'être interventionniste dans l'économie, il doit garder une capacité de financement de l'économie, ce qu'il a gardé avec la Caisse des dépôts et consignations. Donc on peut poser la question en rapport à ce que l'on donne comme objectif à l'État. Moi, je voudrais prendre l'exemple de la SNCF. On met souvent en avant l'idée que ça n'est pas rentable d'avoir une ligne qui est prise par peu de gens dans un endroit moins habité, moins fréquenté de France. Mais c'est qu'on ne se pose plus la question du service public de garantir à tout le monde la capacité de se déplacer. Donc ça, c'est déjà l'oubli de ce point-là. Et puis surtout aujourd'hui, où on a des enjeux climatiques, ne pas se poser ces questions-là et continuer à élaborer une grille tarifaire uniquement en fonction de critères marchands d'offres et de la demande, c'est s'éloigner beaucoup de ce que l'on peut attendre de l'État. Et là, on voit l'effet pervers d'une pensée néoclassique ou néolibérale qui ne met que l'efficacité, le marché, l'offre et la demande comme critère d'évaluation de c'est bien ou pas, ça doit être public ou pas, en oubliant qu'il y a tout un tas d'autres critères pour l'intervention de l'État. Et je crois qu'à l'heure du réchauffement climatique, il est tout à fait essentiel de remettre ces critères sur la table. Quelqu'un d'aussi néoclassique que Jean Tirole lui-même admet que les acteurs marchands n'auront pas la préoccupation climatique par eux-mêmes, que sans doute les incitations, y compris le marché carbone, ne sont pas très efficaces. Et donc, il faut reposer des questions ici fondamentales.
On peut voir l'influence du néolibéralisme dans ce recul de l'idée de service public, Nader Hakim.
Oui, tout à fait. Là, l'État, en fait, a considéré que relever de sa souveraineté toute une série de missions, et en réalité le XXe siècle voit la notion de souveraineté s'accroître, hein. Les missions qui n'étaient pas celles de l'État deviennent celles de l'État. Quand on parle d'État-providence, on le voit comme un État qui prend en charge l'inégalité sociale pour restaurer plus d'égalité, mais c'est aussi une croissance de l'État dans le sens où il va assumer des missions et prendre en charge, considérer qu'il va de ses prérogatives de gérer un territoire, par exemple. Donc là, c'est intéressant, c'est effectivement une logique très différente qui s'installe, et je crois qu'Alain Supiot l'a montré dans son livre sur le gouvernement par les nombres, que cette logique, qu'il appelle logique gestionnaire, devient en matière de politique publique un biais principal qui fait là un changement. Donc il n'y a pas de linéarité. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'État ne croit pas et ne décroît pas de la même manière, mais change aussi ses modes de fonctionnement.
Et puis si on reste un petit peu dans les années 80 et même qu'on arrive dans les années 90, ce que l'on voit avec Raymond Barre, c'est que l'idée qui va s'imposer de plus en plus, c'est l'idée selon laquelle les mesures sociales entravent la compétitivité. On l'écoute.
Il faut sauvegarder notre système de protection sociale. Nous ne le sauvegarderons pas en multipliant les avantages, en distribuant la manne. C'est fini ce temps-là. Nous ne pouvons plus le faire dans le climat de compétition dans lequel nous sommes engagés. Et je ne vous cache pas que je suis préoccupé, toutes les fois que je rentre en France d'un voyage à l'étranger, de voir comme nos partenaires, qui sont nos concurrents, sont à l'heure actuelle en train de s'adapter profondément, alors que, comme nous entrons en période électorale, il n'est question que de savoir quels avantages nouveaux seront dispensés aux Français. C'est à dessein que j'ai utilisé l'expression « sensiblerie sociale ». Je sais, certains ont été choqués. Les belles âmes sont toujours choquées. Mais dans la réalité, nous ne lutterons pas contre le chômage. Nous ne lutterons pas contre les injustices par la généralisation de l'État-providence.
Voilà ce que nous dit ici Raymond Barre, peu avant les élections de 1995, donc il n'est plus ministre de l'économie à l'époque, c'est que contrairement à ses voisins, la France n'est pas allée assez loin dans ses réformes, n'a pas réussi à s'adapter, ce sont ses mots, Bruno Palier.
Alors d'abord, il faut rappeler que Raymond Barre, c'est le tournant vers l'offre du bon père de famille, comme il se présentait, mais dès 1976. Donc il a essayé, c'est la première tentative de changer de paradigme, de passer d'une politique de la demande qui était celle de Jacques Chirac sous Giscard d'Estaing en tant que Premier ministre. Et puis, en 76, on change et Barre essaye d'expliquer qu'il faut restaurer la compétitivité des entreprises, c'est-à-dire qu'elles payent moins d'impôts, que le coût du travail soit baissé. Et c'est une antienne qu'il va lancer, qui va être reprise implicitement par Jacques Delors et manifestement, très explicitement, par Édouard Balladur dans les années 90. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on écoute les néoclassiques, on ne va jamais assez loin. On peut se demander pourquoi. Et soit c'est parce que effectivement on va pas assez loin, mais là on peut dire quand même que ça commence en 76. Il y a beaucoup de privatisation, de baisse de cotisation, de dérégulation dans les années 90. On peut estimer que c'est bon, on a mis la dose de ce qu'il fallait depuis 30 ou 40 ans. Si on n'obtient pas les résultats escomptés, c'est peut-être que le diagnostic et les recettes n'étaient pas... Non pas qu'elles étaient fausses, mais qu'en tout cas, elles n'étaient pas adaptées au contexte français, européen, des années 90 ou 2000. Au bout d'un moment, quand on peut dire, mais attendez, ça fait 30 ans qu'on fait ce que vous dites qu'il faut faire, si ça marche pas, il faut poser la question de la pertinence du diagnostic et des recettes qui sont proposées. Et personne ne peut dire qu'on n'a pas fait ce que Raymond Barre, Édouard Balladur et les économistes et néoclassiques nous demandent de faire depuis une bonne trentaine d'années.
Nader Hakim, la France n'était pas allée assez loin quand s'exprime Raymond Barre en 1994, ou au contraire, c'est que la potion qui lui était administrée n'était pas adaptée.
Oui, alors c'est tout à fait la question. Non, moi, à titre personnel, je dirais que la potion n'est pas adaptée du tout. Mais en réalité, les néolibéraux vous répondront qu'en réalité, les mécanismes de compensation, l'interventionnisme d'État, la régulation extrême fait qu'en réalité, leurs mesures ne peuvent pas s'exprimer pleinement. Donc en réalité, il y a une sorte de... Voilà, la passion néolibérale, c'est qu'en réalité, ces politiques publiques n'ont pas pu être menées à bien et provoquer les effets souhaités parce qu'il y a trop de régulation par ailleurs. Et les opposants au néolibéralisme nous diront, mais c'est la preuve que le néolibéralisme ne fonctionne pas.
Bruno Palier.
En réalité, la question, elle se pose depuis très très longtemps. Voilà, quand on veut instaurer des assurances obligatoires, la plupart des juristes ou des économistes de l'époque, qui étaient en réalité des juristes qui faisaient de l'économie politique, étaient opposés aux assurances obligatoires.
C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « État-providence ». C'est dans le débat sur l'obligation des assurances sociales à la fin du XIXe siècle que les opposants disent non à l'État-providence, non à l'État qui se substitue à l'initiative individuelle, à l'épargne, les choses comme ça. Je crois que ce qui est important, c'est de si on considère que le néolibéralisme est une sorte de paradigme de politique publique, ça donne des recettes, un diagnostic de recettes sur la façon de faire, on peut voir que on a la fin du paradigme de marché dans les années 30, parce que le laisser-faire a débouché sur la crise de 29, et les tentatives de résoudre la crise de 29 par du laisser-faire échouent encore plus, et on passe à un interventionnisme de l'État revendiqué par le New Deal, par Roosevelt, et qui va s'étendre après la Seconde Guerre mondiale, donc paradigme plutôt keynésien, où l'État joue un rôle régulateur, producteur, protecteur, assumé, qui se met en crise dans les années 70, à la fois la crise du fait des changements des conditions économiques, du chômage, des déficits, mais aussi une crise paradigmatique. On n'arrive plus à rendre compte de ce qui se passe, et c'est là où reviennent les libéraux, et ce sont les néolibéraux. Je crois que ce à quoi on assiste depuis la crise financière de 2008, c'est à un questionnement profond de ce paradigme libéral, financiarisé, néolibéral. Et le problème, c'est que la réponse, elle vient pas des intellectuels, elle vient de la rue, des élections, et clairement, on est en train de passer à autre chose. Le problème, c'est que cette autre chose, il prend la forme du protectionnisme, mais il prend aussi la forme du populisme, il prend la forme de la xénophobie, il prend la forme du renfermement, mais c'est bien un backlash politique qui signe et marque la fin de l'ère néolibérale.
Qu'est-ce que la crise de 2008 a changé à ces politiques néolibérales à la française ? On en parle dans un instant.
Ma raison chancelle, j'ai l'estomac creux, les jambes en flanelle, les cheveux vaporeux. Un million mon rêve, ce que je vais boulotter. Tant pis pour moi si j'en crève, je veux en profiter. Un million, quand j'aurai touché mon beau pognon. Un million, je ferai de la suralimentation. Quand on a de l'argent, pas besoin d'être intelligent. Tous les abrutis vont s'esclaffer sur mon esprit. Un million, adieu c'est fini les demi-portions. Un million, je serai candidat au prix Montyon. Je veux des émotions, des honneurs, des décorations. Un million, j'aurai des dentelles à mes caleçons. J'aimerais faire une liste sans rien oublier. Si j'étais nudiste, je voudrais m'habiller. Oui, mais j'envisage des trucs plus nouveaux. Car je voudrais faire de l'élevage chez les asticots. Un million pour dénicher des femmes à passion. Un million, le soir j'irai dans les bois de Meudon. J'aurai mon bureau sur les toits du Trocadéro. Un fumoir hindou et mon boudoir dans les égouts. Un million, si je suis de l'académie plus tard. Un million, j'en ferai une académie de billard. Je veux crever le plafond, être aussi rond que Monsieur Chéron. Un million, je suis un petit gars qui a de l'ambition. Je ferai de l'alpinisme sur les buts de Chaumont et du cucubisme dans tous les salons. J'aurai des maîtresses pour sortir le soir et je m'offrirai une négresse chaque fois j'aurai le noir. Un million, à moi les plus folles sensations.
Un million de Félicien Tramel, une chanson de 1930. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et nous sommes toujours en compagnie du politiste Bruno Palier et du juriste Nader Hakim. Nous poursuivons notre quête du néolibéralisme à la française. Bruno Palier, qu'est-ce que la crise de 2008 a changé à cette influence du néolibéralisme anglo-saxon, qu'il soit américain ou britannique, sur les politiques économiques qui sont menées en France à partir du milieu des années 70?
Le paradoxe, c'est qu'en apparence, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on continue de nous dire que l'État est trop gros, qu'on paye trop d'impôts, qu'il n'y a pas assez de liberté, qu'il n'y a pas assez de concurrence, et que la solution, enfin, si vous écoutez aujourd'hui un certain nombre d'économistes qui ont l'oreille du président, ils parlent comme Raymond Barre dans les années 90. C'est assez amusant. Donc en apparence, pas grand-chose. Moi, je crois qu'il faut considérer la crise de 2008 comme étant une crise générée par la financiarisation et par l'application de la pensée néoclassique au néolibéral à différentes économies, y compris à l'échelle globale, et que donc cette crise profonde débouche sur d'autres choses. Elle débouche sur d'autres choses, ça se voit dans beaucoup de pays, ça se voit peut-être pas en France, mais ça se voit dans beaucoup de pays. Je trouverais délicat que l'on nous explique que Trump mène une politique purement néolibérale. Certes, il fait des baisses d'impôts pour les très riches, mais il fait aussi du protectionnisme, il fait un État très interventionniste pour obtenir des concessions de la Chine ou d'autres. Même chose pour le Brexit, même chose pour ce qui se passe en Europe de l'Est. Bref, on est en train d'assister à la montée en puissance de nouvelles politiques publiques, y compris économiques, sociales, d'immigration. On est en train d'assister à la montée de nouveaux positionnements politiques qui n'ont rien de néolibéral.
Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas en France, alors, Bruno Ballier?
Je ne suis pas sûr que ce soit complètement pas le cas en France. Je crois que le Front National ou le Rassemblement National n'est certes pas au pouvoir, mais a de plus en plus d'audience. Et justement, c'est bien là, par exemple, autour du programme du Rassemblement National qu'on voit les transformations. Mmh. Typiquement, un parti d'extrême droite français ou autre des années 80-90 va aller être très conservateur du côté des valeurs, de l'immigration, etc., mais plutôt très néolibéral en matière économique. C'était lié à un électorat, petits artisans, commerçants, etc. Aujourd'hui, regardez le programme économique du Front National ou du Rassemblement National. Il a certaines ambiguïtés, mais il ne va pas prôner la destruction de l'État-providence. Il va avoir une intervention de l'État.
Nader Hakim, la crise de 2008 a permis en quelque sorte de cristalliser les critiques contre le néolibéralisme?
Je dirais oui, mais en réalité, pas du tout. En réalité, si vous prenez le logiciel, je fréquente mes collègues économistes, ils ont un logiciel qui n'a pas changé d'un iota, pour beaucoup d'entre eux. Donc en réalité, c'est très intéressant de voir que ceux qui peuplent les instances internationales, ceux qui peuplent les ministères, ont en réalité pas changé véritablement de logiciel. C'est exactement le même logiciel, je suis d'accord avec ce que vient de dire Bruno Ballier, mais en réalité, pour que les choses changent, il faudrait aussi que l'offre, pas forcément théorique, mais que l'offre politique soit réellement différente. Et de déplacer le curseur vers un peu plus de protectionnisme, sans changer pour autant une vision, une logique de gestion qui sans la changer, ne peut pas provoquer le changement souhaité, justement.
Et cela
la révolution
passe,
est à venir.
Et cela passe aussi par un État particulièrement présent. On parlait tout à l'heure du recul des services publics, qui a été particulièrement ressenti aussi pendant la crise des Gilets jaunes. Or, à partir des années 80, il y a cette idée qui s'est imposée aussi que l'État n'était pas assez efficace, que la bureaucratie était trop lourde. Je vous propose d'écouter à ce propos Nicolas Sarkozy en juillet 2014, lors d'une interview réalisée à l'Élysée.
Quand nous avons installé le nouveau premier président de la Cour de cassation, j'ai été accompagné de mon garde des Sceaux. Et j'ai voulu être là pour bien montrer la confiance que je faisais à l'institution judiciaire, aux magistrats de France. Et puis je regardais la salle. Je voyais 98% d'hommes. Et je voyais des hommes qui se ressemblaient tous. Mêmes origines, même formation. La tradition des élites françaises. Respectable, bien sûr. Mais pas assez de diversité. La France est une synthèse. Et je n'ai pas envie d'avoir le même moule, les mêmes personnes, tout le monde qui se ressemble, à aligner comme des petits pois, la même couleur, même gabarit, même absence de saveur. J'aime cette liberté, cette différence.
Les petits pois, une phrase très mal vécue par les juges qui ont vu la preuve du mépris du président de la République à leur égard. C'est un épisode qui illustre ce conflit entre les politiques et les fonctionnaires, Bruno Ballier.
Moi, je crois que ce que ça reflète surtout, c'est que on peut très bien faire le diagnostic que les structures de l'État qui se construisent dans les années 50 ne sont plus adaptées au 21e siècle. Est-ce que pour autant ce diagnostic doit forcément déboucher sur l'idée « donc il n'y a plus d'État et il faut laisser la place au marché » Moi, je ne suis pas sûr. C'est peut-être que ça veut dire qu'il faut repenser à la fois le rôle et les structures de l'État avec de nouvelles missions. Ça ne veut pas dire forcément que l'État, il est nul et non avenu parce que il en est resté un peu trop à des missions, une façon de faire, etc., construite dans les années 50 et 60.
Mais est-ce que repenser le rôle de l'État, ça doit être calqué sur l'administration, les logiques du privé? Comme cela a été largement fait depuis un certain nombre de décennies.
Voilà, c'est beaucoup ce qu'on a fait. Donc, c'est le fameux New Public Management, l'application au public des règles de fonctionnement d'une entreprise privée. Et là encore, c'est de croire que le marché, c'est toujours mieux, le privé, c'est toujours mieux. Et on peut se poser la question, là aussi, de ce binarisme entre eux, c'est soit l'État public, soit privé-marché, alors qu'il y a plusieurs formes de privé-marché, on l'a dit, pour le capitalisme. Il y a plusieurs formes, plusieurs façons d'intervenir pour l'État. Et la question, c'est plutôt un renouveau de repenser les missions de l'État que de penser qu'il n'a plus sa place aujourd'hui, à l'heure du réchauffement climatique, à l'heure de l'explosion des inégalités, à l'heure des conflits mondiaux qui sont de plus en plus pressants. Le problème, c'est que les néolibéraux sont apparus comme étant ceux qui avaient des diagnostics pertinent dans les années 70-80, dénoncer la bureaucratie, l'uniformité et l'inefficacité de l'État, ça pouvait avoir une certaine pertinence. Mais pour autant, est-ce qu'il faut en conclure que les mécanismes de marché, c'est mieux ? Eh bien, on peut aujourd'hui conclure que non, dans un certain nombre de domaines. La privatisation des trains, que ça soit en Suède ou en Grande-Bretagne, c'est une catastrophe. Même chose pour la Poste. Et donc, dire que ça n'était pas assez efficace ne veut pas dire qu'il faut passer au marché, mais de trouver de nouvelles modalités. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de secteurs, y compris très performants en France, dans le public, dans le parapublic, où on peut avancer dans ce sens-là.
Cette volonté d'une réforme de l'État, elle est ancienne. Bruno Palier, oui. Elle a joué en ce sens. C'est la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, lancée en 2007, poursuivait cet objectif-là. Je voudrais vous entendre, Nader Hakim, là-dessus, sur cette RGPP et sur la conception de l'État qui s'en dégage.
Alors oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bruno Palier. La logique est une application d'une logique d'entreprise en réalité, de management des entreprises. Et le vrai problème est bien celui-là. Soit une administration à l'ancienne qui est une élite qui dirige dans des cadres prédéfinis qui était celui de l'État-providence, soit on a une gestion managériale de notre côté. En réalité, l'un et l'autre aujourd'hui sont dépassés, on peut le constater, mais la RGPP n'a pas changé, a plutôt aggravé des logiques managériales où en réalité les logiques, par exemple, de budget qui sont plus globaux mais qui sont par structure obligent chacun à intégrer les logiques managériales à tous les échelons de la hiérarchie.
L'objectif, c'était de faire plus avec moins, et ça passait notamment par des suppressions de plus de 110 000 postes de fonctionnaires, c'est-à-dire près de 6% de la fonction publique d'État entre 2007 et 2012.
Oui, alors c'est une logique de rationalisation, mais cette rationalité elle-même est en réalité problématique. C'est-à-dire que cette raison économique au sens classique du terme, logique d'efficacité, qui pose un certain nombre de problèmes et qui en réalité sont des logiques à extrêmement court terme. Donc les suppressions de postes, en réalité, elles ne visent que faire des économies dans un budget prédéfini, dans un terme très court.
Logique d'efficacité, également poursuivie, pardon de nous interrompre, par François Hollande lorsqu'il proposait son choc de simplification avec cette idée qu'il fallait éviter que les normes administratives bloquent l'action sur le terrain. Mais là encore, le bilan est assez mitigé.
Oui, c'est la logique est à peu près identique en réalité. C'est-à-dire qu'on est dans une perspective qui est dite de rationalisation, de simplification, d'efficacité, en réalité qui ne vise qu'une efficacité immédiate. Et c'est très intéressant de voir qu'en réalité, on recrée certains postes dans la forme d'administration. On a commencé par supprimer ces postes, effectivement. On a restructuré pour s'apercevoir que certains de missions n'étaient plus remplies. Et donc, recréer les postes par la suite.
Bruno Palier.
Moi, je crois qu'avant la rationalisation, il y a donc une logique de rationnement. Donc, on réduit la dépense au nom du fait que la dépense publique, c'est un frein pour l'économie parce que ça se traduit en des cotisations sociales et de l'impôt. Et donc là, on est bien dans la pensée néoclassique. Du côté de l'efficacité, moi personnellement, j'ai pas de problème à souhaiter à ce qu'un service soit efficace, c'est-à-dire qu'il ait la capacité de répondre à la demande d'un citoyen, aux besoins des citoyens.
Mais est-ce que ça passe par le management de l'entreprise ?
Exactement.
C'est toute la question.
C'est qu'il y a plusieurs façons d'être efficace. Et ce qu'il y a derrière le New Public Management, il y a une croyance absolue que la seule efficacité, ce soit l'efficacité de la concurrence, l'efficacité du marché. Il y a plein d'autres façons d'être efficace. Il y a plein de management des ressources humaines qui peuvent être positives. Je vais vous prendre un exemple d'actualité sur les retraites. Je vais dire des choses qui vont choquer les auditeurs. À l'heure où l'espérance de vie se prolonge d'un mois ou deux tous les ans, on peut concevoir sur le papier que les gens pourraient non seulement vivre plus longtemps à la retraite, mais aussi travailler un petit peu plus longtemps. Simplement, on ne se donne pas les moyens de faire cela. Se donner les moyens de faire cela, c'est évidemment former les gens, y compris à 50, à 55, à 60 ans, c'est-à-dire dépenser de l'argent, investir dans la formation pour que les gens puissent être en compétence jusqu'à la fin de leur carrière et surtout investir dans les conditions de travail. Pourquoi les gens ils veulent partir le plus tôt possible en France plutôt qu'ailleurs? Parce qu'on a tellement rationné les coûts, tellement fait des économies que les conditions de travail se sont dégradées. Et donc évidemment, les gens à conditions de travail qui se dégradent, ils veulent pas travailler plus longtemps. Donc la courte vue, les économies de bout de chandelle, ce n'est pas la meilleure façon d'être efficace. Être efficace, c'est atteindre ses objectifs. Un service public a des objectifs, et j'espère un service public efficace qui répond à ses objectifs, c'est-à-dire transporter les gens, répondre aux besoins sociaux.
Mais à cela, on peut vous opposer deux choses qui sont à la fois le fait que l'espérance de vie n'est pas nécessairement en bonne santé et qu'il y a des situations extrêmement variées selon les travailleurs qui font qu'on peut plus ou moins travailler longtemps.
Parfaitement. C'est pour ça que l'idée du même âge pour tout le monde est parfaitement injuste, parce que 64 ans, c'est pas la même chose pour quelqu'un qui est ouvrier, qui a commencé à 16 ans, et un intellectuel qui a commencé à être payé vers l'âge de 26 ou 27 ans et qui n'a pas trop envie d'arrêter de travailler. Ça, je suis entièrement d'accord. Ce que j'essaie de dire simplement, c'est que le mot efficacité a été préempté par les néoclassiques qui disent « il n'y a que nous qui soyons efficaces ». Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la révolution néolibérale et néoclassique, elle a posé un arbitrage entre l'efficacité et l'équité. Elle a dit « il n'est pas possible d'être à la fois équitable et efficace ». Ça, c'est à la base de la pensée néoclassique. Je pense qu'il faut sortir de cela. Il y a beaucoup de pays, beaucoup d'administrations, beaucoup de secteurs dans lesquels on arrive à la fois à être efficace et équitable. Et même, c'est plus durable quand on arrive à faire cela.
Il faut sortir de l'antagonisme entre efficacité et équité, Nader Hakim.
Oui, tout à fait. Alors, ce que je souhaiterais, c'est dire simplement que dire être plus efficace, en fait, c'est tout et ne rien dire. Parce que qu'est-ce que c'est être efficace? Je prends une administration publique et une université, par exemple. Être efficace, c'est trouver du travail à ses étudiants, c'est ce qu'on nous dit. Sauf que l'université ne forme pas à des métiers, ne formera jamais à des métiers. En réalité, on donne des compétences. Donc, il faut aussi aligner des critères, des objectifs d'efficacité qui soient liés à la réalité des choses. Et en réalité, le terme même d'efficacité renvoie à une efficience, et cette efficience science-là, elle est confrontée aujourd'hui aux logiques environnementales, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'une politique publique peut être efficace sans tenir compte de son impact à long terme, par exemple?
Et vous
bien que le terme d'efficacité ici, tout d'un coup, est ruiné, parce qu'il s'agit bien de décisions qui sont politiques. L'efficacité ne peut pas remplacer une décision politique.
Et vous diriez, Nader Hakim, que la réforme des retraites, telle qu'elle est proposée par le gouvernement d'Edouard Philippe, est une politique néolibérale? C'est ce que dit, par exemple, la philosophe Barbara Stiegler.
Ah oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Barbara Stiegler quand elle dit cela, même si en réalité elle n'est pas faite pour des motifs explicitement pensés tels quels, qui sont néolibéraux. En réalité, le réduction du coût l'objectif premier, hein, l'objectif premier, la réduction du coût, et on va aller chercher de l'argent dans les caisses là où il existe, par exemple les caisses des avocats, c'est un véritable hold-up qui est fait sur les caisses des avocats, et pour prendre que cet exemple-là, il y en a d'autres, il s'agit d'une rationalité purement à court terme, de dire il faut financer, et donc on va trouver les ressources immédiatement disponibles pour ce faire. Donc réduire les coûts en guise de politique publique, c'est un peu court, et c'est sans doute cela, et je suis d'accord avec Benoît Palier, qui est le premier motif de critique des néolibéraux, qui ont conduit à pousser dans ce sens-là, et dans des impasses multiples.
Bruno Palier, sur cette question des retraites.
Avant d'arriver à la retraite, ce qu'il faut voir, c'est qu'on souffre du fait que pour une pensée néoclassique, il n'y a pas besoin de définir les objectifs, ils se définissent tout seul par l'agrégation des demandes des individus. Donc il n'y a rien, vous savez.
C'est-à-dire
Thatcher l'a dit, there is no such a thing as a society. Donc il n'y a rien, le collectif, le social, le service public, l'intérêt général, ça n'existe pas. Tout n'est qu'agrégation des demandes individuelles. Et donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a démantelé l'État ou l'État-providence, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose à la place, ça va se faire tout seul par les mécanismes de marché. C'est l'auberge espagnole d'Adam Smith, c'est tout un tas de choses comme ça. Je pense qu'il faut dénoncer cette aporie de croire que le collectif n'est que la somme des individus. Il y a des choses, alors Rousseau l'avait dit de façon pas toujours la plus pertinente, mais il y a d'autres choses que l'agrégation des individus pour pouvoir mener une vie ensemble, une vie sociale. D'où la question sur laquelle on revient sans cesse au cours de cette émission, de quels sont les objectifs, quelles sont les missions, à quoi on destine l'État, à quoi on destine la protection sociale, etc. Et c'est au regard de ces objectifs que l'on peut définir des critères d'efficacité, de bon fonctionnement, du financement, etc. Et il faut sans doute renouveler ces grands objectifs et non pas les annihiler. Or, les néoclassiques veulent les annihiler parce qu'il n'y a pas besoin de le faire, le marché dira les choses. Sur les retraites, j'aurais une vision plus nuancée parce que, en fait, on sait ce que c'est un modèle néolibéral de retraite. C'est le modèle proposé par la Banque mondiale en 1994 dans son rapport. Et ce modèle, il dit, l'État ne doit intervenir que pour garantir un minimum vital pour les plus pauvres. Tout le reste doit être privé. Donc il y a trois étages dans le modèle néolibéral de retraite. Vous avez un étage public qui est les pensions minimales données aux plus pauvres. Puis vous avez un étage d'épargne obligatoire. Donc c'est des fonds de pension, mais ils sont obligatoires.
Donc la capitalisation.
La capitalisation, mais obligatoire. Et puis vous avez un troisième étage de capitalisation individuelle. Donc l'obligatoire, c'est l'État qui régule, mais c'est pas l'État qui le fait. Et la facultative, l'État donne des incitations, donc typiquement des incitations fiscales.
Donc ce n'est pas une réforme néolibérale, mais d'inspiration, en tout cas, d'influence néolibérale ?
Alors, elle ne met pas en œuvre un système à trois piliers typique de la Banque mondiale des années 90. Elle n'est pas non plus explicitement destinée, en tout cas explicitement, il n'y a pas d'affichage comme quoi on va retirer la part du public pour laisser la place au fonds de pension. Moi, je sais que dans le passé, j'ai beaucoup étudié, j'ai publié sur la réforme des retraites, un petit que sais-je, je sais que dans le passé, quand Fillon a fait la réforme, c'était explicitement pour laisser la place au fonds de pension. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il fait sa réforme au printemps, en 2003, et à l'automne, il annonce des mesures d'exonération fiscale pour les fonds en capitalisation.
La crise n'était pas encore passée par là, on pouvait encore plus facilement se dire que c'était peu risqué.
Donc là, peut-être qu'aujourd'hui... certains ont abandonné l'idée de transvaser les choses vers le privé. En tout cas, ça se dit moins. Donc, beaucoup de gens disent, on voit bien BlackRock, etc., que c'est un des enjeux. Il y a en tout cas d'autres enjeux autour de cette réforme. Il y a l'enjeu du fait que de plus en plus de gens ne font pas carrière dans un secteur. Et donc, ils passent d'un secteur à un autre. Et peut-être que c'est plus simple d'avoir un régime unique pour tout le monde. J'avance, puisque vous m'interrogez sur les retraites, je crois qu'il faut, si on veut dépasser les caricatures, il faut pouvoir détailler un petit peu. Donc, un seul régime, ça permet aux gens de garder leurs droits quand ils passent d'un secteur à un autre. Un seul régime, ça permet aussi d'assurer des solidarités entre les avocats et les agriculteurs. Qu'est-ce qui se passe avec les agriculteurs ? C'est, il y en a de moins en moins et de plus en plus de retraités. Qu'est-ce qui se passe avec les avocats ? Il n'y en a pas beaucoup à la retraite et il y en a de plus en plus sur le... C'est normal, on a une montée en qualification de notre économie et des métiers. Comment on assure la solidarité entre les uns et les autres ? C'est plus facile si tout le monde cotise au même régime et finance les retraites. En revanche, ça pour moi, c'est les justifications de cette réforme positive. En revanche, ne pas comprendre que 64 ans, c'est pas la même chose pour quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans. Pour quelqu'un qui a une espérance de vie, un homme ouvrier, de 7 ans de moins qu'un cadre. Donc, M. Philippe, visiblement, ne comprend pas ça. Mais que ça n'est pas juste de donner le même âge de départ à retraite à tout le monde. Ça, je dis pas que c'est néolibéral, mais en tout cas, c'est particulièrement limité. De même, faire porter le chapeau du risque aux individus et non pas au collectif, parce que c'est ça un système à points, c'est que avant on vous promettait une retraite et il fallait trouver les ressources pour les financer. Aujourd'hui on dit ah bah désolé, tu verras bien combien vaut ton point. On décidera en fonction de la situation, c'est faire porter le risque démographique, économique, etc.
Et c'est en cela qu'on retombe sur le néolibéralisme et sur l'idée de faire porter cette responsabilité sur les individus. On arrive au terme de cette émission. Pour conclure, Nader Hakim, peut-être que plutôt qu'à un rétrécissement de l'État, on assiste à une transformation de l'action publique avec une hausse de la coopération entre acteurs publics et privés et qui n'est peut-être pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais en réalité, l'accumulation des structures dans l'État, et notamment dans le cas français, fait qu'il s'agit en réalité de plusieurs États en un. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que nous avons une accumulation de structures et qui n'obéissent pas d'ailleurs toujours aux mêmes logiques. Et donc, dire que la France est un État néolibéral, ce serait à mon sens une erreur. Dire qu'elle a des tensions néolibérales de plus en plus fortes, nous rapproche plus de quelque chose de plus juste, en tout cas.
Des tensions néolibérales de plus en plus fortes, Bruno Palier ?
C'est les tensions nées de l'échec de ces recettes néolibérales dans la France. Moi, je pense que les partenariats publics-privés débouchent sur un surcoût à terme énorme et des dysfonctionnements. Allez voir le palais de justice nouveau de Paris, qui devrait nous amener aujourd'hui à questionner un certain nombre de croyances et de recettes. Et je le rappelle, si nous ne sommes pas capables de nous poser ces questions-là, temps, un certain nombre de mouvements politiques les posent et les posent de façon brutale et autoritaire.
C'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Une trêve dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, avec la signature hier à Washington d'un premier accord. Une trêve, c'est-à-dire, est-ce que c'est la fin des tensions économiques?
En tout cas, Donald Trump n'a pas manqué de déclarer, en signant avec le vice-premier ministre Liu He, qu'il s'agissait d'un accord historique. Après un an et demi de guerre commerciale, les milieux financiers également sont soulagés, les bourses sont à la hausse et des acteurs comme la directrice du FMI, Kristalina Georgieva et le PDG de JP Morgan Chase expriment leur satisfaction, mais dans le contenu, l'accord de 96 pages est pourtant assez maigre. Trump réduit le déficit commercial américain avec un engagement d'achat de la Chine portant sur 200 milliards de dollars supplémentaires d'importations américaines, et la Chine, qui a perdu pendant ce temps à peu près 8% d'exportations vers les États-Unis, obtient une semi-exemption de surtaxe américaine et la sortie de la liste des pays qui manipulent leur monnaie. Autrement dit, on suspend l'escalade, mais il n'y a pas de réponse au problème de fond. C'est ce qu'explique Sébastien Jean, le directeur du CEPI, qui parlait d'un accord à rebours de ce que cherche Donald Trump.
Les engagements pris par les Chinois consistent en une augmentation totale des importations, effectivement, de 200 milliards sur deux ans. Là-dedans, il y a 32 milliards pour les produits agricoles, il y en a aussi 78 milliards pour les produits manufacturés. Maintenant, les engagements de substance dans l'ouverture chinoise, à mon sens, ne sont pas annonciateurs d'une plus grande facilité d'exportation des États-Unis vers la Chine, mais plutôt, d'ailleurs, paradoxalement, plusieurs des clauses de l'accord vont plutôt faciliter l'installation en Chine d'entreprises américaines. Donc plutôt de l'investissement, même de la délocalisation dans certains cas, c'est en cela qu'ils peuvent aussi aller même à rebours des objectifs américains. Et je ne vois pas en quoi ils apportent une réponse à ces questions posées sur la désindustrialisation. Il n'y a aucune disposition, par exemple, sur les subventions industrielles chinoises, sur le comportement des entreprises d'État chinoises. Donc ils vont vendre plus de produits aux Chinois, mais peut-être que ça va se faire au détriment, aux dépens des ventes vers d'autres destinations. Et je ne crois pas que ça apporte de réponse de fond au problème américain.
Alors que peut-il se passer maintenant? Un accord de phase 2 sur les problèmes de fond ou une reprise de la guerre commerciale?
Eh bien, cet accord de phase 2 qui porterait sur la propriété intellectuelle, les transferts technologiques et les subventions chinoises aux entreprises, et pour l'instant tout était toute hypothétique. Donald Trump avait bien déclaré que les discussions commenceraient immédiatement, mais Pékin n'a pas confirmé de visite. Autre hypothèse, sinon qu'avec cet accord, Washington ait les mains libres pour imposer une autre guerre commerciale, celle qu'il veut faire avec les Européens, avec qui il est également en déficit.
On passe au bref, le gouvernement vient de baisser le taux du livret A, ce placement souvent présenté comme le plus populaire.
Oui, parce que 55 millions de comptes sont concernés par une baisse de 0,75 à 0,50% de la rémunération de ce placement, le plus répandu effectivement. Première baisse après deux ans de gel, selon un calcul qui l'indexe en partie sur l'inflation. Le ministre de l'économie présente également cette baisse comme une incitation à diversifier l'épargne et un moyen de construire 17 000 nouveaux logements sociaux, et il s'expose à l'opposition de droite qui parle d'une atteinte aux petits épargnants. Cependant, cette baisse ne les affecterait qu'assez peu. Ce serait 2,50 € de perte de rémunération pour un compte à 1 000 €. Or, 60% de ces placements ne dépassent pas 1 500 €.
Et pour finir, les entreprises de l'Union européenne regardent-elles aussi vers la Chine, mais elles ont du mal à y voir clair.
Oui, c'est le résultat d'une étude de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine sur l'attitude des entreprises envers un projet clé de Pékin dans les infrastructures, les nouvelles routes de la soie. D'abord, on note un intérêt tout relatif, puisque sur 132 entreprises interrogées, 20 seulement ont déposé des offres. Et puis surtout, une certaine opacité, ou opacité certaine, puisque parmi elles, 10% seulement avaient vu un appel d'offres public en bonne et due forme. Deux entreprises en tout, opacité et attitude donc assez surprenante pour les entreprises européennes, avec des projets chinois clés en main à 100% qui défient toutes les règles de concurrence.
Merci Xavier, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal de l'Écho.
After the party comes this little feeling. After the glow, after you, here comes the gloom. And in the morning it's hard to let the sunlight in. Town. Go on and let me taste the love you tender.
avec Morgane Imbault, Afterglow. Merci beaucoup Bruno Palier et Nader Hakim de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Bruno Palier, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « L'investissement social, quelle stratégie pour la France ?» C'était paru à la Documentation française. Demain, on parlera de l'emploi des seniors. Mais en attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.